Allo Ciné présente Rencontre.
Bonjour Luana Bajrami.
Bonjour.
Alors donc tu es actrice et réalisatrice, on t'a vu dans des films tels que L'heure de la sortie de Sébastien Marnier, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, Les deux Alfred de Bruno Podalydès, L'événement d'Audrey Diwan, Coupé de Michel Hazanavicius ou encore Une année difficile d'Éric Toledano et Olivier Nakache, ce qui en soi est déjà quand même pas mal. Mais tu as aussi réalisé deux longs métrages, donc La colline où rugissent les lionnes qu'on avait découvert à la quinzaine des cinéastes du Festival de Cannes en 2021 et Notre monde, le film pour lequel nous sommes ensemble, qui sort le 24 avril. Pour résumer vraiment schématiquement, ce sont deux films qui se déroulent au Kosovo dont tu es originaire et qui parlent de la jeunesse. Mais est-ce que tu peux nous pitcher en quelques mots ce nouveau film ?
C'est l'histoire de deux jeunes femmes, de deux jeunes cousines qui, en 2007, vivent dans un village et décident de s'enfuir contre la vie des parents pour aller étudier en ville et pour se construire un avenir, en fait, pour décider de leur propre vie. Et c'est leur chemin à toutes les deux.
Est-ce que tes deux films ont en commun aussi, c'est, voilà, tu le disais, en fait, c'était ta envie de s'enfuir, cette idée de départ. Est-ce que ce nouveau film, il est né un peu, je dirais pas en réaction du précédent, mais comme un prolongement du précédent? C'est-à-dire de se dire, tiens, qu'est-ce qui serait passé si les filles avaient pu partir de leur village?
Oui, complètement. Je pense que c'était dans cette dynamique, en tout cas, de continuer à explorer cette thématique de la jeunesse et de la porter ailleurs. Donc là, en l'occurrence, en ville, à Pristina, chose que n'avaient pas pu faire, effectivement, les trois premières lionnes. Mais oui, il y a cette forme de continuité. Je sais que moi, j'avais déjà cette ambition d'un potentiel diptyque, justement, autour de cette jeunesse-là, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste, très universel aussi, et qui, moi, m'a juste passionné en fait depuis le premier film. Ouais.
Et comme tu le disais quand tu présentais le film, ça se passe en 2007, c'est-à-dire en marge de l'indépendance du Kosovo. Est-ce que tu as choisi cette date-là pour que ce soit une histoire d'indépendance au pluriel, qu'on mette en parallèle la quête d'indépendance de ces héroïnes et celle du Kosovo en même temps?
Complètement. C'est quelque chose qui est venu d'ailleurs pendant l'écriture, parce que c'était pas une ambition initiale, et j'avais envie de mettre en abîme presque ces deux choses-là, c'est-à-dire que c'est quand même une période qui est très méconnue du Kosovo, dont on ne parle pas beaucoup, et qui est pourtant pour moi passionnante. Ça n'empêche que ce n'est pas forcément le sujet du film, mais qui pour moi, ça servait vraiment ce que je voulais raconter du parcours de ces deux jeunes femmes-là. Et surtout, ça les met dans cette position d'attente qui fait encore écho à la situation actuelle, en fait, du Kosovo, mais même en fait de n'importe quel jeune qui essaye de se projeter et qui ne sait pas trop où aller, comment se diriger, qui est en colère souvent, contre qui on ne sait pas. Pour moi, ouais, ça servait, l'un servait l'autre.
Et est-ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai ressenti devant le film, c'est que oui, c'est un film qui est très localisé dans le temps et dans l'espace, mais tu peux déplacer son action n'importe où dans le monde, les thématiques de la jeunesse qui est face à un avenir flou, la dégradation du système de l'éducation, c'est des choses qui étaient actuels déjà en 2007 et qu'ils sont encore aujourd'hui. C'est peut-être même pour ça que tu as appelé le film Notre monde.
Complètement. Oui, oui. Et j'adore qu'on insiste sur cet aspect universel. C'est vrai que c'est, de toute façon, c'est un film qui parle de ces émotions-là, de ces jeunes-là qui cherchent à s'émanciper, qui cherchent autre chose. Et ces émotions, je crois qu'elles sont communes à tous, hors contexte. Moi, je suis issue de cette double culture France-Kosovo. J'ai toujours comparé les deux. De cette jeunesse, comment elle évolue en France, et de cette jeunesse, comment elle évolue au Kosovo. Et en fait, les destins sont intrinsèquement liés. Et c'est d'ailleurs assez fascinant de se dire qu'effectivement, c'est la destinée de tout le monde. On passe tous par là, et les fractures sociales, économiques, elles sont partout, en fait.
Et tout à l'heure, tu as employé le mot colère, et c'est ce qu'on ressent dans tes deux films. Et en même temps, ce que je trouve très fort, c'est que ce sont des films qui sont, qui parlent de colère, qui sont énergiques, mais en même temps qui sont très beaux, qui en fait développent cette colère avec beaucoup de calme. Comment est-ce que tu arrives en fait à le développer de la sorte ?
C'est-à-dire que j'ai le sentiment que la colère, c'est tellement une émotion qui est tout le temps présente et qui peut-être intervient même parfois par pic seulement, mais qui toujours dort en nous. Ça n'empêche pas qu'il y ait des moments de joie, de jouissance, d'envol, d'espoir, de grosses désillusions. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être toujours là, malgré l'intervention d'autres émotions. Et pour moi, c'est important de ne pas tomber dans quelque chose de trop noir, qui ne serait pas à l'image de la réalité, en fait. Moi, mon désir, c'était simplement de représenter cette réalité-là et de la représenter le plus honnêtement possible quelque part, avec bien sûr ce filtre de fraîcheur qu'est la jeunesse et qui est toute émotion d'ailleurs de changement et de renouveau.
Et c'est pour en revenir à cette année 2007, cette indépendance du Kosovo, est-ce que tu t'es basé sur des souvenirs que tu avais de cette époque-là, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as majoritairement découvert ensuite ? Parce qu'on voit beaucoup d'images d'archives au début du film, et donc ça fait penser que voilà, quelque chose aussi de très personnel de ton côté.
Bah, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai découvert alors après, parce que pendant, j'étais quand même très très jeune. Ouais. Et j'avais pas forcément conscience de ça, parce que moi j'étais dans un cocon forcément où on avait la liberté d'être en France ou d'être au Kosovo comme on en avait envie, ce qui n'est pas le cas de tous les Kosovars qui n'avaient pas une circulation libre à ce moment-là. Donc oui, c'est quelque chose, on va dire que cette curiosité-là de l'histoire du pays, bien que c'est quelque chose que je pense qu'on ressent tous, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existait en moi mais dont j'avais pas conscience, parce que j'avais conscience de mon environnement mais je savais pas forcément l'expliquer à ce moment-là. Donc cette curiosité-là, elle est arrivée après, beaucoup par l'écriture, beaucoup parce que j'avais cette inspiration et cette fascination pour le pays lui-même, et elle est venue surtout de la jeunesse du projet, qui est ces cassettes familiales que je découvre pendant le confinement. Je trouve 30 ans d'archives familiales qui traversent l'avant-guerre, le pendant et l'après. J'ai trouvé ça fascinant.
Donc en fait, les archives qu'on voit au début, il y a des images que...
Elles sont principalement personnelles.
Il y a des images de toi, on est bien d'accord.
Oui.
C'est ça, c'est bien ce que je me disais en fait. Et après, par contre, c'est des choses qui ont été remises en scène, j'imagine, pour coller un peu avec l'histoire.
Et bien, principalement pas, franchement.
C'est vrai.
Ouais. La majorité, c'est resté des véritables images, ces images d'archives familiales. J'ai essayé de les reconstituer pour coller encore plus à la situation familiale des personnages même, mais c'est vrai qu'on ne retrouvait pas ce filtre en fait, cette espèce de nostalgie, quelque chose qui existe je pense dans les images, ou moi qui avais un rapport très personnel à elle certainement. Cette reconstitution là ne m'a pas satisfaite, donc on a employé finalement les vraies images.
Mais surtout qu'en plus, l'un des points communs entre tes deux films, c'est que visuellement c'est très beau aussi, on sent qu'il y a un vrai sens du cadre, on sent qu'il y a un vrai sens de l'image.
Ouais, c'est très important pour moi. Alors, j'ai quand même une grosse tendance à beaucoup me focaliser sur les personnages et sur les comédiens. Mais c'est vrai que... c'est-à-dire que dans l'écriture, en fait, moi, je visualise déjà beaucoup. Et ça peut être très frustrant quand on est sur le plateau. On peut être très... on a envie d'être très précis et on est très perfectionniste sur... bon, je l'ai imaginé comme ça et ça doit être comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est beaucoup des images de composition, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, et j'avais envie de conserver la même esthétique que le premier film dans cette histoire, de cette idée de continuité, quoi, de diptyque. Et en même temps, j'avais pas envie de refaire la même chose. Donc c'est vrai que le format d'image n'est pas le même, on est encore plus avec les filles, on ne voit presque pas ce qu'elles regardent, on regarde que par elles. Et j'avais envie d'épouser encore plus leur point de vue. Et c'est vrai que du coup, ça a créé... je me suis à la fois plus focalisée sur les personnages et à la fois j'ai conservé ce désir et cette passion, quoi, pour le cadre, pour l'image, pour la composition.
Oui, il y a même beaucoup de gros plans, et il y a aussi cette volonté chez toi de beaucoup plus raconter par l'image que par les textes. Est-ce que déjà c'est quelque chose dont tu es consciente, ou est-ce que tu le découvres finalement en voyant le film ou en voyant les rushs ? Parce que tu disais que tu avais beaucoup le film en tête quand tu l'écrivais. Est-ce que déjà ce côté en fait de réduire les dialogues au maximum, c'est quelque chose qui est présent, ou est-ce que ça naît plus à la réalisation ou au montage ensuite ?
Je crois que c'était présent en écriture, parce qu'une des premières versions de ce scénario-là, étonnamment, c'était un film qui ne faisait que parler. C'est-à-dire que ces jeunes-là, c'était beaucoup des scènes autour de table, comme ça, autour d'un café, ils discutaient. C'était un film très, 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 très parlé. Et en fait, tout s'est réduit parce que c'est ça la force du cinéma, je crois. C'est l'image qui montre et qui ne dit pas. Donc c'est quelque chose qui est venu au fil du temps. Et je pense que ça, j'en avais moins conscience pendant mon premier film. J'en ai eu plus conscience, j'en ai pris conscience, et du coup maintenant j'essaie de l'employer.
Et je me souviens qu'à l'époque on s'était parlé pour La colline où rugissent les lionnes, tu m'avais expliqué que le casting avait été compliqué, puisqu'au Kosovo il y a des acteurs et des actrices mais il n'y a pas d'agence. Est-ce que ça a été plus facile là, ou est-ce que c'était les mêmes difficultés ?
C'est le même cadre, c'est resté le même cadre. Et en plus j'avais peur, je me suis dit « Oh là là, j'ai peut-être déjà rencontré tout le monde pour le premier film ». Est-ce qu'il y a de nouveaux visages, etc. Parce que le pays est tout petit et l'industrie l'est encore plus là-bas. Et en fait, non. Il y a tellement de talent et tellement de désir pour l'art de manière générale et du coup le cinéma aussi là-bas, que ça a été plus simple parce que cette fois-ci je savais comment m'y prendre. Et ça, par contre, ça a été le même processus, c'est-à-dire que j'ai fait des très longs castings et en même temps je savais dès le départ, bon bah c'est Volta, c'est elle, Zoé, c'est elle. Et en plus, Zoé, pour le coup, donc Elsa, n'est pas comédienne du tout, est musicienne à la base, on s'est rencontrés par hasard.
D'accord.
Et ça a été une évidence pour moi, le duo a été même une évidence. Il a fallu qu'on s'apprivoise presque l'une l'autre pour que le projet se fasse ensemble. Mais du moment où elles se sont rencontrées toutes les deux, parce qu'elles ne se connaissaient pas avant non plus, comme les trois filles sur le premier film, ça a été une évidence, ça a cliqué et ça a été je pense que ça a été le vrai déclenchement en fait du projet. Une fois qu'on a trouvé les personnages, on se dit ça y est, on a tout ce qu'il faut, let's go.
Du coup, il y a eu beaucoup de réécriture derrière ou t'as plus laissé place à de l'improvisation ou de des changements sur l'instant?
Non, ça a toujours été. En fait, c'est beaucoup en préparation. À travers des discussions et des lectures, on fait des improvisations pour pas faire ça sur le plateau, ouais. Parce que c'est vrai que j'avais peur de ça, en fait. Alors pas peur, mais j'appréhendais un petit peu. Je me disais, bon, on fait un film sur la jeunesse, c'est beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de dialogue et de discussion, mais le peu qu'il y a, ça peut très vite aller dans tous les sens et être complètement chaotique, voire cacophonique. Et il fallait cadrer tout ça, et donc c'est quelque chose qui s'est fait en préparation. Ça n'empêche pas que parfois on a laissé place à la spontanéité sur le plateau, parce que c'est aussi ça qu'il fallait préserver, je pense.
En plus, on sent qu'il y a une volonté de réalisme chez toi. En fait, tu tombes jamais dans le. Alors, j'allais dire spectaculaire, c'est peut-être pas forcément le mot, mais vous savez, dans ce genre d'histoire, on attend des fois quelque chose qui va faire basculer l'histoire, en fait, une espèce de rebondissement dramatique. Mmh. Et il n'y a pas ça, en fait. Donc, tu recherches vraiment le réalisme. En fait, c'est autant. Il y a presque une volonté documentaire.
Bah, honnêtement, oui. Après, la différence, c'est vrai que c'est qu'avec la fiction, on peut un peu s'amuser, on peut faire ce qu'on veut. Mais c'était ça pour moi le défi, c'était de filmer encore une fois cette jeunesse et cette errance-là, ce qui se passe en interne donc, et de le filmer sans artifice en fait. C'était vraiment pour moi le défi, parce que c'est vrai que même en tant que jeune, parfois il se passe pas forcément des choses spectaculaires dans nos vies, et pourtant on le vit de manière spectaculaire, et moi je trouve ça fascinant en fait. À quel point est-ce que, voilà, nous individuellement, comment est-ce qu'on s'inscrit dans l'environnement général? C'est ça qui me... Donc effectivement, je ne cherche pas le spectaculaire, je ne l'évite pas non plus, mais oui. Je ne le cherche pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il se présente ou est-ce qu'il se présente pas? Là, il ne s'est pas présenté.
Oui, ce qui fait qu'en fait, l'histoire paraît plus crédible et en fait, on est beaucoup plus investi dans l'histoire et ça participe au côté universel.
C'est ça, et pour moi aussi, je pense que ça ouvre beaucoup de champs. C'est-à-dire que pour le spectateur, il est assez libre de divaguer pendant qu'il regarde le film et de s'identifier du coup d'autant plus à ce qui est raconté là.
Et quand tu parlais du casting, tu disais que tu avais eu peur d'avoir vu tout le monde sur ton précédent film. Est-ce qu'il y a quand même des profils que tu avais vus à l'époque mais pas retenus que tu as pu engager ici?
Oui, complètement. Il y a d'ailleurs une des comédiennes qui était Yeta dans le premier film, une des trois filles, qui incarne Bessa, là dans celui-ci, qui incarne un autre personnage complètement à l'opposé de ce qu'elle avait interprété dans le premier film. Et en fait, c'est ça que je trouve toujours intéressant, c'est de composer avec les acteurs, quoi, de les amener ailleurs et de composer loin de ce qu'ils sont eux dans la vie de tous les jours. Et sinon, oui, j'ai vu plein. C'est un film où il y a beaucoup plus d'acteurs aussi et de comédiens, même dans des personnages secondaires. Donc, ouais, on a investi un petit peu tout le monde.
Et par contre, dans celui que tu ne joues pas, est-ce que c'était. Est-ce que tu t'es dit qu'il y avait un rôle à un moment pour toi ou en fait c'était uniquement si personne n'était dispo?
Non, c'était. Si personne n'était dispo, je voulais bien prendre la casquette. Mais là, j'avais vraiment envie d'être derrière la caméra, quoi. Là, autant sur le premier film, pour moi, il y avait un sens d'interpréter ce personnage franco-kosovar. Autant là, c'est surtout que j'avais rencontré, en fait, les comédiennes et les personnages avant même de me poser la question. Et donc, ça a été une évidence, quoi. Je me suis dit, bon, cette fois-ci, on va essayer de rester que derrière la caméra.
Et alors, il y a deux répliques tout particulièrement qui m'ont marqué dans le film. La première, c'est celle qui dit « il faut pouvoir être libre de faire ce qu'on veut ». Et j'ai l'impression que c'est toi qui parles à travers ça, en fait, cette idée de « si personne n'écrit les histoires que j'ai envie de raconter, bah, je vais les raconter moi-même ». Est-ce que c'est un peu le but de cette réplique?
Ouais, c'est drôle,
est-ce que tu t'en es rendu compte?
Non, je ne m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis pas rendu compte, c'est drôle. Je pense qu'après, il y a plein. C'est absolument une fiction et il n'y a rien d'autobiographique dans ce film. Mais évidemment qu'il y a beaucoup de moi et ce désir de liberté-là, de pas avoir de pensée limitante en fait, et de sortir de tous les carcans dans lesquels on est et de ne pas se mettre dans une case. Je pense que effectivement ça transpire, et cette liberté de faire des films, pour moi c'est une grande chance. Et c'est, oui, je pense qu'il y a plein de répliques, en réalité on peut en prendre plein, qui font beaucoup écho à ma manière de voir les choses.
Je pense que la suivante, pareil en fait, qui est plus vers la fin et qui je trouve est à la fois un bon résumé du film et quelque chose d'assez motivant, c'est: est-ce qu'on doit s'en vouloir d'avoir rêvé plus grand? Est-ce que toi, tu t'es retrouvé dans ce cas-là, sur ce film, t'as dû revoir tes ambitions à la baisse par rapport à ce que tu voulais faire initialement?
Non.
C'est bien.
Non. Honnêtement, cette phrase, elle est vraiment... pour moi, c'est l'essence du film, parce qu'en plus, elle fait écho à la première phrase du film dans les archives, qui dit « Don't dream dreams, ne vous bercez pas d'illusions ». Et c'est donc toujours ce désir de la boucle. Et là, je voulais interroger le rêve, en fait. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est autorisé à rêver selon le contexte dans lequel on vit? C'est une grande question, la question du rêve. Ça m'habite beaucoup. Je crois que ça me suit dans tout ce que j'écris et dans tout ce que je vais écrire, certainement. Après, c'est... Ouais, on rêve tous, finalement.
Et on dit souvent qu'en France, il est plus facile de faire un premier long métrage qu'un deuxième. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti, toi, sur celui-ci?
Oui, c'est-à-dire que c'était pas les mêmes difficultés du tout. Mais c'est vrai qu'on dit toujours que le deuxième film est comme un pas décisif, en fait, qui confirme ou infirme ce qu'on a fait en premier lieu. Donc pour moi, il y avait un défi déjà de pouvoir le faire, parce que c'est un film qui avait plus d'ambition, mais pas non plus une énorme ambition par rapport au premier film, dans le sens où on restait assez cohérent dans la suite des événements. Mais il y a eu quand même cette petite pression de « Ah, là, il y a quelque chose qui se joue, Luana, quoi. Est-ce que c'était un one-shot ou est-ce que ça va continuer ?» Et moi, je voulais absolument prouver que non, c'était un désir profond et que ça va pas s'arrêter là.
Et j'imagine que l'apport de Eric Toledano et Olivier Nakache, qui sont producteurs, a dû grandement jouer.
C'est-à-dire que c'est un soutien infaillible et un énorme coup de pouce qui est tombé pile au bon moment, juste avant qu'on se mette à tourner, en fait. Et ils sont arrivés en pleine préparation du projet. On venait de se rencontrer sur leur propre tournage. Franchement, j'y suis allée au culot, je leur ai présenté le projet. Ils ont adhéré. Et leur intervention, en fait, en réalité, elle a été majeure, en tout cas artistiquement, j'entends. Post-production, c'est-à-dire au montage. Ils sont arrivés du coup avec ce regard très frais et ils m'ont permis d'avoir une certaine distance aussi avec ce que j'avais fait et dans l'accompagnement derrière. En tout cas, ouais, ça a été très belle rencontre, très beau soutien et je pense que ça va certainement continuer.
Oui, parce qu'au final, vous vous retrouvez aussi sur cette manière de parler des sujets actuels, de sujets graves, mais sans tomber non plus dans le pathos et dans la noirceur complète.
Oui, c'est vrai qu'aussi, ils esquivent ça. Parce que c'est pas la vie, en fait. C'est vrai que dans la vie, on traverse des choses et on tombe pas dans le pathos.
Oui.
En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai pas non plus envie de faire du drame pour faire du drame, quoi. C'est pas du tout un désir. Mais oui, il y a quelque chose qui nous lie. En tout cas, c'est marrant d'être passé d'une année difficile à ce tournage-là. Comme ça, en quelques mois.
Et je me souviens qu'à l'époque de la colline où enregistrait Lyon, tu m'avais dit aussi que tu voulais vouloir permettre à de nouvelles voix d'être entendues. Est-ce que tu sens que la tienne l'est plus maintenant que tu as fait deux films, que tu es passé par Cannes, que tu es passé par Venise?
J'espère. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Non, j'espère. C'est-à-dire que moi, j'adorerais voir sur la scène sur la scène culturelle, en tout cas de fabrication, de projet. Le cinéma, c'est quand même très... C'est pas simple, le cinéma, parce que c'est une vraie industrie, en fait. Sauf qu'en tant que réalisateur, nous, on n'a que l'artistique en tête. Et par industrie, on parle de beaucoup d'argent, on parle de budget énorme et on parle de toute une chose à mettre en place pour que ce film, il existe. Donc... C'est un milieu qui est en plus très vaste. Moi, je me sens en fait plus entendue, je sais pas, mais je me sens bien plus à l'aise et je me sens surtout bien plus sûre de moi dans comment j'envisage les choses et où j'ai envie d'aller avec tout ce que j'ai en tête là, tout ce que j'ai dans le cœur et tout ce que j'ai envie de raconter.
Bah, tu parlais de ce que tu vas faire après, justement. Est-ce que tu as un troisième film en préparation ?
Bah, du coup, oui, je suis en train de développer un projet. J'en développe pas qu'un d'ailleurs, j'en développe plusieurs en fait. Et il s'agit de savoir lequel va prendre en premier.
Et est-ce qu'on va rester dans cette optique de parler de la jeunesse kosovare ou au contraire, puisque tu parlais d'un diptyque, est-ce qu'au contraire, maintenant ton diptyque étant bouclé, tu vas partir sur autre chose ou transformer le diptyque en trilogie, tétralogie ?
Il y a potentiellement un triptyque qui est possible. En tout cas, je pense que je n'ai pas fini d'explorer cette question de la jeunesse de manière universelle, mais que je situe au Kosovo, parce que ça m'inspire beaucoup trop et que le sujet est tellement vaste, je ne sais pas si j'en finirai encore avec. Mais peut-être aussi, j'ai envie de faire un film en France, et peut-être même... En fait, je n'ai pas envie de me fermer de porte, et ça dépend de ce qui va arriver en premier. Peut-être même, je vais aller faire un film aux États-Unis, pourquoi pas.
Ce serait bien. C'est une vraie volonté.
C'est une vraie volonté, pourquoi pas. Non, mais je veux dire, je m'ouvre un maximum de portes. J'ai pas envie de. Ouais, j'ai envie de. Je pense que j'ai un boulevard devant moi et j'ai envie de l'utiliser au maximum, quoi.
Bah, c'est tout ce que je te souhaite.
Merci.
Et alors, pour terminer, si jamais les gens qui nous écoutent ne sont pas encore convaincus d'aller voir notre monde, quel mot tu emploierais pour les convaincre définitivement d'y aller ?
Un seul mot.
Ah non, enfin, alors, quel mot au pluriel ?
Ah, les mots ?
Ah oui.
Ah ouais, bah. Non, franchement, pour moi, ce film, au-delà de... C'est vrai qu'on a parlé beaucoup du Kosovo, du contexte, etc. Je pense quand même que c'est l'histoire, tout simplement, finalement, de l'amour fraternel mis à l'épreuve de la vie. Et on a tous expérimenté ça. Je pense que c'est un film qui peut être inspirant. C'est un film, surtout, qui est empreint d'une fougue et qui documente quelque chose qui est important à documenter, je pense. Donc...
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Luana Bajrami.
Merci.
Notre Monde sort donc le 24 avril au cinéma. Et pour vous qui nous écoutez, on se retrouve très vite pour d'autres podcasts sur Allociné. Salut.
Allociné.